Libre à Dieu. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui effaite les corps.
Voilà, donc de retour en direct en public depuis la Friperie Sauvage, ici au 1-3 de la rue Lissignol. Si tu es encore derrière ton laptop, eh bien j'espère qu'on a réussi à te convaincre de venir nous rejoindre ici. Viens chiner, il y a des bouquins, les bouquins de livres, il y a plein de d'habits et de choses diverses et variées, extrêmement intéressantes en tout cas. Le point de vue est vraiment sympa depuis notre position. Et nous sommes donc en compagnie de Pia. Pia donc, qui est la porte-parole de PEA pour l'association pour l'égalité animale et Malena qui est la fondatrice, on dit comme ça.
Oui, cofondatrice.
La cofondatrice de la crèmerie vegan de Genève, qui se situe d'ailleurs, et c'est maintenant, parce qu'on maintenant on va parler de ça vraiment stricto sensu, qui se situe donc à la rue de la Ferme.
Tout à fait.
Alors, rue de la Ferme numéro
9.
Et ça, c'est vers les Augustins.
C'est vers les Augustins.
Donc, on s'y rend avec le tram 12, entre autres.
Exactement.
Ok. Tiens, on va commencer par ça. Site internet, horaire d'ouverture, tout ça, les petites trivialités nécessaires, essentielles.
Alors le site internet, il est encore en construction depuis de très 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 nombreux mois, parce que c'est nous qui faisons le site, c'est nous qui faisons un peu tout et qu'on n'a pas le temps pour le moment de le poursuivre. Mais il indique en tout cas les bonnes informations. Donc les heures d'ouverture sont du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 11h à 18h. Et les lundis et dimanches, on est fermé.
D'accord, quand même.
Voilà. Enfin, on travaille le lundi, ouais,
vous êtes en train d'affiner le fromage. Qui êtes-vous, la petite équipe? Je dis petite parce que certainement vous n'êtes pas très très nombreux, j'imagine. Mais la petite équipe qui vous occupez de la crèmerie, c'est toi et trois
petits. Alors, c'est mon papa, mon copain et moi-même. Donc, nous sommes trois.
C'est déjà pas mal, voilà. Hein, dites donc. Pour le moment, vous n'en vivez pas, c'est ça?
Nous,
vous n'en vivez pas.
On en survit, mais le salaire se paye par l'enthousiasme, disons, et l'accueil des produits. Mais vraiment, on ne se rend pas compte, mais parce qu'on est très, très fatigué, que moi-même, il m'arrive de pleurer de fatigue, et que ce qui vraiment me fait tenir, c'est l'accueil et de voir que les gens viennent, reviennent. Tous les jours, on a des personnes qui viennent pour la première fois, qui découvrent et qui reviennent. Donc voilà, ça nous fait tenir et ça laisse de beaux espoirs.
C'est à ça que je voulais en venir, c'était qu'actuellement vous êtes plus payé par la gratitude des gens un aspect pécunier, mais on espère bien entendu que celui-ci survienne à un moment donné quand même.
Hein. C'est des choses très techniques, parce que les gens, comme ils ne sont pas derrière, ne savent pas toujours, mais en fait on dépend un peu de dates limites de consommation. Les dates limites de consommation dépendent des analyses en laboratoire qui ont un coût qu'on a du mal aussi à supporter pour tous les produits. Et les analyses en laboratoire dépendent des emballages définitifs. Et comme on a une clientèle qui est exigeante, qui souhaite des emballages biodégradables, etc., là on fonctionne avec des choses de dépôt. On galère vraiment à trouver. Donc si quelqu'un nous entend et il y a des solutions miracles à nous proposer, de thermoscelleuses accessibles financièrement, c'est très bienvenu. Mais donc voilà, une fois qu'on aura débloqué ces problématiques là, on pourra commencer à envisager une distribution plus large, mais c'est des petites choses techniques qui nous bloquent.
D'accord, on va revenir là-dessus. La réaction des gens, juste avant ça on faisait la pause musicale et tu nous disais que tu avais assisté à des réactions particulières.
Il y a des réactions très émouvantes, en effet, de personnes lors des dégustations l'année dernière pour faire connaître le projet. Une femme un peu plus loin était en train de pleurer, à la fois en sanglots, mais elle pleurait. Puis elle s'est avancée en me disant que ça faisait 25 ans qu'elle n'avait pas mangé de fromage. On a d'autres personnes, trois autres personnes qui ont aussi versé des larmes dans la crèmerie en dégustant les produits, mais parce que ça vient toucher à des souvenirs familiaux, ça vient toucher à des moments. On parle de tradition, d'héritage, et puis c'est ça, les gens ont peur de perdre les choses dont ils héritent. Et quand on voit qu'en fait, non, pas du tout, on peut les remplacer assez facilement, ils sont émus de pouvoir retrouver ça.
Très bien, très bien. Qui fréquente et qui achète? Sont-ce les mêmes personnes ou il y a quand même des gens qui entrent par curiosité? Fromage, vegan, pas normal, tu vois, genre le schéma comme ça. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui reviennent en disant non, moi j'achète, je connais, je mange ça.
Voilà, on a exactement, on a de tous. Tous les jours on a des nouvelles personnes qui viennent pour découvrir. On a des personnes qui disent tiens, crèmerie vegan, qui arrivent un petit peu avec un sourire en coin en se disant vous n'allez pas nous avoir, et puis qui repartent effectivement quand même avec des fromages parce qu'ils sont, étonnés. Et en général ils reviennent. Donc on a une clientèle qui s'amplifie, qui se régularise beaucoup. On s'attendait, comme je le disais avant, à plus de vegan et d'intolérant, et non, on a beaucoup plus d'omnivores. Et comme je le disais avant, je pense que toutes les vidéos d'enquête, d'abattoir, etc., ne les poussent pas dès le lendemain à venir à la crèmerie, mais jouent un rôle quand même, parce qu'elles le savent. Voilà. Il y a des images qui sont là, et quand elles voient crèmerie vegan, elles franchissent le pas. Elles ont aussi toutes les personnes aujourd'hui comptent dans leur entourage une personne justement sensible à la question animale, donc elle n'est plus, la question animale n'est plus autant méprisée qu'il y a quelques années, donc tout le monde essaye d'accepter. Mais encore l'autre jour, on avait un papa et sa fille qui venaient, et la fille était végane et le papa était plutôt, on le sentait derrière, il voulait pas goûter, il refusait, et il s'est laissé quand même tenter. Et donc on sentait qu'avec difficilement il admettait, il avouait que c'était très bon et que c'était très convaincant.
Bon bah c'est bien, donc on peut dire que mission accomplie d'une certaine manière, c'est-à-dire que oui. Voilà, vous êtes là, vous avez pignon sur rue maintenant et les gens entrent, viennent. Poser des questions même peut-être.
Alors mission pas encore totalement accomplie, parce qu'elle sera accomplie le jour où on aura cessé d'exploser, enfin où tout le monde pourra trouvera normal de consommer des fromages végétaux, mais en tout cas on est en bonne voie du côté de la crèmerie.
De quoi avez-vous besoin? Est-ce qu'un soutien serait possible pour des personnes qui nous écouteraient et qui auraient envie? Alors certes qu'on peut venir déjà acheter le fromage, mais y aurait-il d'autres types de soutien qui seraient les bienvenus?
Alors on nous a beaucoup de personnes veulent nous poussent à relancer un financement participatif, chose qu'on refuse absolument de faire parce que c'est déjà énorme tout ce qu'on a récolté. Alors c'est vrai que ça ne suffit pas de monter une entreprise, c'est pas 200 000 francs, il y a des gens on a parfois besoin de 400 000, c'est du matériel professionnel qu'on a qui est lourd et qui coûte cher, mais puisqu'on est quand même encore en difficulté, on a créé une association qui s'appelle en fait les Amis de la Crèmerie. Tout n'est pas encore annoncé, parce que ça se met en place petit à petit. C'est une association qui est là pour accueillir justement les soutiens pour ceux qui ont envie, mais nous on va pas démarcher pour pousser les gens à nous soutenir, c'est ceux qui souhaitent le faire, et on espère surtout que cette association qui s'appelle les Amis de la Crèmerie Végane puisse un jour venir en soutien au lieu d'accueillir le soutien. Mais pour le moment on est encore en phase de démarrage où effectivement on a besoin encore un peu de soutien.
D'accord. Le travail, est-ce que c'est énorme? Est-ce que c'est gérable à trois? Est-ce qu'à terme, vous dites, un apprenti ou une personne en plus, pourquoi pas?
Non, alors il nous faut clairement des mains supplémentaires. On est trois et on n'arrive jamais à la to-do list de chaque jour n'est jamais complète. On termine des fois jusqu'à 11h, minuit. Faut s'imaginer qu'il y a du ménage à faire. Il y a les préparations, il y a les ventes. Pendant qu'on prépare derrière, il faut gérer les ventes aussi avec la clientèle. Il y a la com qui est très, très active. Ça fait beaucoup, mais on espère d'ici quelques mois. On a quand même des personnes qui viennent nous aider de temps en temps, hein, qui sont des amis, de la famille. On démarre avec l'entraide.
Alors voilà, je voulais en venir à ces étapes. Enfin, moi là, je voulais t'en proposer trois, mais tu vas certainement là du coup en ajouter. Mais si j'ai bien compris, donc il y a la partie où il faut préparer, produire, fabriquer des fromages, une partie où il faut effectivement les conditionner, les emballer, les mettre à disposition, et ensuite il faut les vendre. Il y a ce travail de vente. Est-ce qu'on peut dire que les trois grosses étapes, ce sont celles-là?
Oui.
Ok, et alors si tu es d'accord, on fait par étape un petit peu les divers travaux justement qu'il s'agit d'effectuer et leur coût en termes d'énergie humaine. Dans la fabrication des fromages, comment est-ce que vous le pensez? Est-ce qu'on va dire on va faire une collection entre guillemets, j'allais dire? Est-ce qu'on va essayer de faire des fromages justement avec des noix, avec à l'intérieur des noix, enfin tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on définit une sorte de variété, différentes variétés de fromages qu'on veut proposer?
Oui, alors ça, je dirais que la tête pensante des recettes, c'est mon papa qui
il semblait avoir compris.
Qui n'est pas fromager, qui n'a rien à voir avec la cuisine, mais qui est un artiste gourmand. Donc, il va chercher tout simplement des choses qui lui manquent et il se pose des questions. Alors, il s'est toujours posé les bonnes questions, tout simplement. C'est lui qui s'est dit, tiens, un peu plus de froid, plus de chaud, si je rajoutais ceci, cela. Il essaye et ça marche ou ça ne marche pas. Mais donc, c'est lui la tête pensante un peu des recettes.
D'accord.
Nous derrière, après, on les produit, c'est-à-dire que on applique les recettes. Lui, il les cherche,
Mais donc il y a ce travail-là.
Mais oui, alors c'est vrai que c'est un challenge parce que on a par exemple Boursin ou Caprice des Dieux qui fait un fromage et puis qui vend ça. Nous, on a le challenge de devoir tout retrouver. On participe aussi. Hein. Des fois, on goûte, on dit tiens, en rajoutant ceci, cela, on fait des essais. Donc on participe aussi, mais c'est lui qui crée un peu tout ça.
Goûteur bénévole, je viens. Typiquement, je te posais cette question-là parce que, alors on en a parlé tout à l'heure et puis un petit peu hors antenne, on a bien compris que parmi les véganes, l'idée, c'est pas de reproduire ce qui se passe chez les omnivores, mais en termes d'ingrédients, enfin de copiage, je veux dire. Mais voilà, concernant typiquement, est-ce qu'il y a des gens qui viennent en disant, ouais, moi j'aurais quand même envie de faire une fondue, parce que le truc convivial de la fondue, voilà, puis-je faire une fondue végane, une raclette ou un machin comme ça. Est-ce que ça, c'est également un état d'esprit qui vous habite, le fait de dire, oui, faisons attention justement typiquement également un peu au code du coin, en proposant, voilà, par exemple, la fondue végane, c'est possible.
Alors oui, dans le sens où on ne cherche pas à reproduire exactement, mais on cherche à retrouver les mêmes plaisirs. Donc, si le plaisir local et qu'il y a une demande locale de manger de la fondue, on va forcément essayer de trouver. Et puis, des fois, c'est même en mangeant qu'on se dit, ah tiens, là, on a un goût de... Si on pousse dans ce sens-là, c'est des saveurs qui viennent à nous aussi, puis qui font que, tiens, on se met à méditer dessus et à se demander si... si on peut aboutir à quelque chose. Là, par exemple, mon papa a travaillé, développe la feta, la mozzarella à côté. La fondue et la raclette sont aussi en train d'être réfléchies et essayées, testées. Mais par contre, on a beaucoup une demande de la clientèle qui vient. Bonjour, je cherche une fondue pour tel repas, je cherche tel produit, est-ce que vous avez l'équivalent ? Donc il y a aussi une demande. Les gens nous reprochent de vouloir faire pas, mais il y a une demande aussi de retrouver ces produits-là.
Ouais. Donc on peut dire qu'il y a une partie laboratoire.
Ah oui, clairement. Oui.
Voilà. Passons à la deuxième étape, si tu veux, dans ce petit trio, là, triptyque que j'ai décrit. L'emballage, le packaging, toutes ces choses-là, parce que j'imagine qu'il y a la notion un peu zéro déchet, un peu comme c'est, on va citer le bocal, on est tout près du bocal, où voilà, on a des choses en vrac. Alors pour le fromage, on ne peut pas trop, j'imagine, mais j'imagine que vous êtes également sensible à ça, au fait de dire on ne va pas suremballer des trucs.
Parce qu'on avait l'idée au début de faire des meules, de faire des choses donc pour des fromages à la coupe, pour les magasins en vrac, justement, sauf que pour le moment, on est encore en pleine recherche et que les meules n'aboutissent pas à des résultats. C'est des longs mois d'affinage et on n'a pas le temps pour le moment de faire ces longs mois d'affinage. Et je ne sais plus si j'ai parlé des emballages, les problèmes de date limite de consommation.
Oui,
tu as
à peine abordé, mais justement, si tu pouvais préciser.
Donc quelle est la problématique. Chaque produit, pour pouvoir avoir une date limite de consommation, doit passer en laboratoire. Donc le laboratoire va le garder autant de temps que l'étiquette indique la validité. Et ça, c'est un coût qu'on ne peut pas supporter pour le moment. Et ces analyses, elles doivent être faites avec les bons emballages. Et pour le moment, donc, on n'a toujours pas les bons emballages pour pouvoir distribuer une épicerie qui se trouve à Lausanne ou même en France pourra difficilement distribuer un produit qui n'est pas thermocellé, qui n'est pas... Donc aujourd'hui, on essaie de tenir compte de la considération des clients qui veulent quelque chose de biodégradable. On a aussi les normes d'hygiène alimentaire qui nous imposent aussi d'avoir un emballage qui ne convient pas. Donc on essaye vraiment, on est dans un entre-deux et on risque malheureusement de devoir faire l'impasse sur le biodégradable quelque temps pour pouvoir commencer à distribuer, récolter un peu d'argent pour pouvoir ensuite se payer le matériel, parce que ça coûte très cher on avait reçu un devis qui se plafonnait à 30 000 pour avoir une idée, pour avoir une bonne thermocelleuse, avoir un truc biodégradable fait avec de la résine, donc voilà, on n'a pas les 30 000, donc on va devoir faire des concessions.
Quand tu dis les bons emballages, qu'est-ce que tu entends par les bons emballages?
Bons emballages, on parle de biodégradable, on parle...
J'ai compris. Ok, donc ça veut dire qu'il faut également...
Avec une éthique et un impact environnemental qui soit au minimum.
Ouais. Donc ça implique que des matériels que vous aurez sont des matériels adaptés.
On espère, mais comme je le disais, on risque de devoir faire l'impasse quelques temps dessus. Ouais. Par contre, les gens qui sont à Genève et qui veulent déjà venir à la crèmerie avec leur contenant, on les sert déjà au poids sur beaucoup de produits.
Ça donne faim tout ça quand même, non? Enfin, je sais pas, moi je commence à avoir... ok, troisième étape, à moins que tu veuilles compléter ou...
Non, mais il y a toujours cet appel, si vous avez une thermocelleuse et des emballages...
À quoi ça ressemble une thermocelleuse?
Non, il y en a des toutes petites, mais qui sont manuelles, il y a des semi-automatiques. C'est vraiment d'avoir un film plastique qui vienne couvrir chaud sur le contenant.
D'accord. Donc voilà, l'appel est lancé en tout cas pour une thermocelleuse. La troisième étape, c'est la vente, la com, toutes ces choses-là. Alors ça, c'est comme on l'a dit, et d'ailleurs, tu as déjà répondu un peu, en tout cas ébauché la réponse. Un site internet, c'est lourd, s'il faut le faire, il faut le gérer. Et pour le moment, vous n'avez pas le temps de faire ça aussi. Alors voilà, comment ça se passe? Vous vendez sur place. Effectivement, tu as dit que pourquoi pas, les personnes peuvent commander des choses.
Oui, on a des fois des commandes pour un mariage. Si on arrive à y répondre, on le fait. Si on n'y arrive pas, on est très sincèrement désolé, mais en règle générale, on s'arrange pour avoir le fromage nécessaire et pouvoir répondre à la demande.
Et puis en termes de com, alors comment vous faites? Vous essayez quand même via peut-être la page Facebook également, parce que c'est quand même super joli, le logo, tout ça, enfin on voit que c'est quand même pensé.
Alors beaucoup de gens nous découvrent à travers Facebook et Instagram, donc les réseaux sociaux marchent très bien, il y a le bouche à oreille aussi, mais oui en effet, on avait démarré notre campagne financement participatif sur les réseaux sociaux et ça a très bien marché, donc depuis on a des fidèles qui nous suivent.
Et qui s'en occupe de ça chez vous, c'est plutôt...
C'est moi.
C'est toi, d'accord. Mmh. Donc c'est quand même un boulot en plus du tout.
Oui.
Ok, ok. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, tout ça est extrêmement intéressant. On va rappeler évidemment l'adresse et les horaires d'ouverture de la librairie. De la librairie.
Crêperie, aujourd'hui, librairie.
Ouais, ouais, non, mais...
Cela dit, on aura des livres bientôt aussi. Dans
mais le... Oui, c'est parce que voilà, vous avez de toute façon, on va le rappeler, mais il y a également des flyers. Vous êtes là aussi pour éventuellement répondre à quelques questions
tout
concernant.
À fait.
Parce que tu l'as dit, c'est une. C'est plus qu'une posture, c'est...
Ah mais on cherche vraiment idée. À sensibiliser, on espère voilà. plus tard pouvoir même aller, pourquoi pas, dans les écoles, quand on voit que Swiss Milk rentre dans les écoles pour sensibiliser les enfants aux produits laitiers, on aimerait vraiment pouvoir faire pareil et les sensibiliser à la question animale et aux produits végétaux.
Alors justement, une question concernant les cuisines collectives, ça c'est quelque chose vers lequel vous pourriez, pourquoi pas... aller tendre, aspirer, parce qu'il y a effectivement les écoles, mais il y a également les EMS, il y a les homes pour personnes handicapées, enfin il y a toute une série de cuisines collectives qui, pourquoi pas, pourraient être.
Alors
également...
sans doute, on n'a pas du tout encore, eu le temps l'espace, disons, pour commencer à réfléchir, voir comment, là, l'urgence, c'est déjà chaque jour de consolider ce qu'on a mis en place. Mais dès qu'on pourra réfléchir à comment on peut impacter même socialement, comment on peut rendre aussi les produits plus accessibles, parce que c'est vrai qu'ils ont un certain coût, beaucoup de gens trouvent que c'est très cher les produits végétaux. Je tiens à rappeler que ce qui fausse les lois aussi du marché, c'est que l'industrie laitière est lourdement subventionnée et que si elle n'avait pas ces subventions-là, les prix seraient différents. Donc ça fausse les lois du marché et nous on espère quand même aussi pouvoir avoir plus de matériel, rentabiliser la production, éliminer certains gestes qui nous font perdre beaucoup de temps de travail pour pouvoir aussi rendre ça plus accessible. L'idée, c'est de développer dans ce sens-là.
Ouais. Dernière question avant que tu rappelles justement l'adresse et tout. Qui sont-ils, vos fournisseurs, justement, les fournisseurs dont vous avez besoin?
Alors, les noix de cajou, par exemple, elles sont bio, issues du commerce équitable. Elles viennent du Bénin et parfois du Burkina Faso. C'est la société Gebana qui travaille avec des filières qui s'investissent sur place. C'est-à-dire que les gens sont formés. Les noix ne voyagent pas d'Afrique en Asie et d'Asie en Afrique ou en Europe. Tout est traité sur place, donc du début jusqu'à la fin. Donc on a le souci aussi, évidemment, de se fournir en noix issues du commerce équitable.
Très bien, très bien. D'autres fournisseurs comme ça avec lesquels vous privilégiés, j'ai envie de dire, ou...
Non, pour le moment, on n'a pas encore eu le temps de développer tout ça, mais bien sûr qu'on aimerait privilégier. Il y a des essais, par exemple, de ganache avec des chocolateries qui sont en train de se faire. Il y a plein de choses qu'on aimerait, du pain au levain pour pouvoir, le pain, vin, fromage. On espère pouvoir recréer un peu tout ça, retrouver tous ces plaisirs autour du fromage.
Un livre de recettes, peut-être, parmi...
Alors, c'est en projet, mais dès qu'on aura un peu de temps. Mais c'est en projet.
Ok, on se réjouit de découvrir ça. Je dis ça parce que l'été est en train... On arrive à la fin de l'été, que les courges vont réapparaître et qu'il se trouve qu'on peut faire des crèmes au chocolat, des mousses au chocolat avec de la courge. Et c'est extrêmement bon. C'est très onctueux avec la courge. Et voilà, c'est un des derniers trucs...
Voilà. La crème chocolat sera la prochaine sortie de la crèmerie. La semaine prochaine, vous pourrez venir en goûter.
Écoute, merci beaucoup. Alors voilà, les questions maintenant des personnes autour de nous, Philippe.
Oui, est-ce qu'il y a des tests qui ont déjà été faits avec des simples noix, on va dire, d'origine locale, au lieu des noix de cajou ou des produits exotiques? Est-ce qu'il y a une recherche aussi qui a été faite avec des produits purement locaux, quoi.
Pas tout. Il y a eu des essais, par exemple, avec l'amande, mais l'amande, il suffit qu'il y ait une amande amère, mais d'autres, non. Alors, si c'est vraiment local, non. On n'a pas eu l'occasion encore de faire des essais. C'est déjà énorme, si on compte déjà l'impact écologique de la noix qui est traitée de... Donc, en fait, l'anacardier, c'est un arbre qui pousse dans les zones arides et sèches, donc qui crée de la forestation. Les émissions de carbone, il y a un rapport de la FAO qui date de 2010 ou 2013 qui est totalement positif. Sur l'économie locale aussi, par rapport aux producteurs de noix de cajou, là aussi, il y a un impact positif. Quand on voit aussi, quand on compare justement l'exploitation de l'industrie laitière, l'impact écologique de l'industrie laitière et ce qu'on fait actuellement, il y a déjà tellement qui ont été élevés. Donc c'est sûr qu'on sera critiquable sans doute sur deux, trois aspects. On ne peut pas être parfait, mais je pense que l'avancée, elle est déjà énorme et on engage des gens, évidemment, s'ils veulent faire pousser de l'anacardier au Tessin. Moi, je rêverais de voir une équipe se poser la question et s'interroger sur l'anacardie au Tessin. Je pense qu'il y a des choses possibles. Je serais ravie que les recherches aillent dans ce sens-là.
Parce que, oui, enfin, mon point de vue, mon propos était aussi dans le sens où les producteurs de lait se plaignent de toute façon de ne pas pouvoir vendre leur lait moins de 1 franc le litre. Et que pour eux, enfin, c'est une perte, c'est presque une perte de faire du lait. Quoi. C'est quelque chose qui ne devient pas rentable. Et je me dis, bah, ça serait l'occasion peut-être de leur dire d'abandonner le lait.
Et oui.
Et de passer au lait végétal.
Absolument.
Tout ce qui peut, je connais pas tous les produits, évidemment, mais il y a pas mal de végétaux qui peuvent faire du lait et que les producteurs de lait pourraient, au lieu de produire des
animaux. Absolument, mais on encourage, je pense que PEA aussi encourage dans ce sens-là, pour que les producteurs de l'industrie laitière ou de l'exploitation animale se reconvertissent à une agriculture maraîchère et végétale.
Ah oui, ben, l'appel est lancé également. Convertissez-vous. Alors, rappelons, pour en terminer, à moins que des questions ne surgissent, non. Rappelons les horaires et puis l'adresse de la crèmerie vegan de Genève.
Donc la crèmerie vegan se situe au 9 rue de la Ferme à Genève et on est ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 11h à 18h et fermé les dimanches et lundis.
Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup pour l'accueil.
Bonne continuation et puis on se retrouvera de toute façon pour parler de...
Avec plaisir.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt. Alors on fait une petite pause musicale et puis juste derrière, eh bien, nous allons parler là du coup de PEA, l'association pour l'égalité animale. Une petite chanson et puis on vient juste derrière. On le rappelle pour les auditrices auditeurs, c'est La Comète à la Banane pour questionner nos invités. C'est sur Facebook ou alors info@zibradio.org. On y va.